Et on a tout un show pour vous ce matin, les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, quand il fait beau, je suis de bonne humeur. Fait que tout devrait bien aller encore pour quelques jours. Je vous propose, en deuxième heure d'émission, d'accueillir notre chronique dans la salle d'attente. Puis comme c'est long à attendre dans la salle d'attente, d'habitude, on va avoir le temps de jaser avec la docteure Christiane Laberge. Puis vous allez être contents parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des symptômes d'allergie ou peut-être de rhume. Peut-être que vous avez déjà attrapé la grippe parce que en ce moment, ça commence. Alors, on va départager tout ça, on va essayer de comprendre la différence entre allergie et rhume, entre autres. Et je recevrai Guy Lenguet dans notre entrevue sans filtre. J'en profite pour vous dire que vous pouvez aller sur le site du 98.5, aller cliquer sur l'onglet de mon émission Isabelle et vous pouvez réécouter en podcast toutes les entrevues que nous avons faites sans filtre avec des vedettes, des personnalités que vous aimez. En première heure d'émission, je vous propose une bonne discussion sur les voitures. On a beaucoup parlé du vélo dernièrement, puis je sais, je vous lis, il y en a qui commencent à être tannés qu'on parle que du vélo. Fait que vous allez être contents. On va parler de voitures parce que l'automne amène son lot de magasinage de véhicules. Peut-être en attendant de vous choisir un vélo électrique sous l'impulsion de Louis Garneau, comme il nous le suggérait vendredi dernier. Peut-être vous magasinez-vous une voiture. Et là, bon, on en revient toujours à la même question. Que choisir? S'il y a tellement de modèles, on essaye de voir un peu quels sont les meilleurs. Alors nous, on a les meilleurs ce matin pour vous en parler. Je vous les présente. Je fais-tu votre journée, moi, messieurs?
Ah, absolument.
Benoît Charrette, Antoine Joubert, merci d'être là, les gars.
Salut.
Merci.
Alors, j'ai deux gros livres avec moi.
Ouais.
Pas de jaloux. Le guide de l'auto 2020. Auquel Antoine participe. Et Benoît, bien sûr, publie avec Éric Lefrançois l'annuel de l'automobile 2020 également. Ils sont de plus en plus gros. Me semble qu'on est supposé rouler de moins en moins que des véhicules automobiles. Me semble
mais
que
mais
vos
sont
livres...
à l'image des véhicules de nos jours. Les gens achètent des véhicules toujours de plus en plus gros, de plus en plus lourds, de plus en plus technologiques.
Mais non, mais ils sont...
Mais pour fin d'information, on a le même nombre de pages depuis 5 ans.
Ouais.
Parce que mon éditeur m'interdit, avec un gun sur la tête, de mettre plus de pages.
C'est vrai.
Il met juste plus d'encre.
C'est ça. Alors, il y en a un, l'annuel de l'automobile qui est publié par les éditions La Presse et les éditions de l'Homme publient le guide de l'auto. Voilà pour...
La plug.
Non, mais c'est important parce que ils sont, sincèrement, là, sans faire de plug, c'est une référence, je pense qu'on peut le dire. C'est entre autres par là que les gens peuvent commencer leur magasinage.
C'est un bon outil.
C'est
intéressant que tu dises ça parce que ce week-end, pour un événement auquel j'ai participé, j'ai croisé Jacques Duval.
Comment va-t-il?
Il est moins en forme qu'il était.
Ben,
on va être honnête, là. Il a 85 ans, M. Duval, mais il tenait à être présent à l'événement.
Wow.
Et M. Duval ne conduit plus. Ce que j'ai trouvé dommage, je ne savais pas, mais M. Duval ne conduit plus. Puis, évidemment, j'ai quand même discuté avec lui quelques instants pour pouvoir, ramener le fait que M. Duval, c'est celui qui a commencé ça,
ouais,
ces livres-là.
C'est vrai.
Et essaye pas.
Mais c'est pas mal lui qui a été un précurseur, d'ailleurs.
Bien sûr. Puis l'histoire est toute simple, c'est que c'est sa femme qui lui avait bêtement mentionné « Écoute, pourquoi tu ne mettrais pas les idées de ton émission « Prenez le volant » sur papier en faisant un petit livre?
Ouais. » C'est Alain Stanké qui avait été le premier à le publier.
Et ça a commencé comme ça en 1967. Et c'est encore une tradition ici au Québec, 54 ans plus tard. Alors, je voulais souligner ça parce que non seulement c'est une tradition ici au Québec, que ce soit le guide de l'auto, l'annuel de l'auto, le carnet de route qui a existé pendant des années, l'almanach de l'auto qui a existé jusqu'en 2000, jusqu'au décès de Jean Crainville. Il y en a eu plusieurs publications. Essaye pas de vendre ça en Ontario, essaye pas de vendre ça dans les Maritimes, essaye pas de vendre ça aux États-Unis, ça ne fonctionne pas.
Non.
Il y a qu'au Québec que ça marche, un livre comme ça.
C'est vraiment un phénomène local.
Comment vous expliquez ça?
Ben, l'habitude, après 50 ans, les gens ici sont habitués, connaissent ce produit-là.
Oui, mais
tu parles de ça. Moi, j'ai présenté ce produit-là aux États-Unis, puis le Motorbooks, pour nommer la compagnie qui est au Minnesota, puis le publisher, l'éditeur de la maison d'édition m'a regardé en disant « Tu fais ça chaque année. » Lui, il n'en revenait pas. Là. Il dit « Ça... »
C'est un travail de moine, là.
Ah oui, c'est une montagne de travail.
Parce que vous essayez chacun des véhicules, vous rajoutez peu de...
Pas Antoine et moi, mais je veux dire, on a une dizaine d'auteurs.
Moi, je peux en essayer pour vous, si vous voulez.
Pas de problème, on va t'appeler.
C'est la première fois que j'entends ça.
Arrête!
C'est la première fois que j'entends ça. Cette semaine, justement, Isabelle, si tu as envie de faire l'essai du véhicule que je conduis aujourd'hui, j'ai une fourgonnette Chrysler.
Avec grand plaisir, mon cher ami, parce qu'avec les espèces de routes de chenoute qu'on a, on n'a pas le choix d'avoir des fourgonnettes.
Tu vas pas nous partir ces routes, là.
L'avantage.
Tu vas pas nous partir ces routes, là.
Oh, j'aurais pas besoin de travailler fort.
Non, 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 c'est sûr.
Écoute. Vous êtes arrivé tout à l'heure, de quoi vous m'avez parlé?
Ah oui,
de la circulation, puis je pense que...
Bon, OK, je vais le dire.
Vas-y donc,
demain,
Antoine.
Sur la Rive-Nord, depuis qu'ils ont fait une voie réservée sur Papineau pour le transport en commun et les taxis, là, cette voie-là est vide. Il reste une voie le matin pour descendre. C'est un fou, c'est un bordel épouvantable. Et comme si c'était pas assez, ils sont capables d'aller mettre un camion de poubelle à l'heure de pointe là-dedans.
Ah, ça, là! Ça!
Tu sais, de la bonne gestion.
Ça, mais les camions sincèrement, qui ramassent les poubelles en pleine heure du matin, l'heure de pointe du matin, non.
Sincèrement, la voie réservée aux taxis, aux autobus, à la limite, ouvrez-la aux véhicules verts, ouvrez-la aux véhicules qui prennent plus qu'une personne,
exact.
Je sais pas, ouais. Mais elle est vide. Puis le bouchon que ça fait. Alors, pour vous donner une idée, moi, j'ai 24,5 kilomètres à faire pour partir de chez moi et me rendre à TVA où j'allais faire Salut, bonjour ce matin. Et le GPS me disait 1h47.
Es-tu sérieux?
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait
dans
tout le
détour. Tu prends l'hélicoptère TVA dans ce temps-là.
Ben oui. Non, il n'était pas disponible. C'était trop tard. Mais j'ai fait tout le détour. J'ai pris le pont payant de la 25. Je suis descendu jusqu'à Montréal-Est. Je suis descendu de Dixon au complet. Ça m'a quand même pris 1h35, mais j'ai sauvé 15 minutes. Merci, Waze. Mais,
pour faire 24 kilomètres?
Ben là, j'ai fait plus que ça. Je peux te dire ça? J'ai
non,
fait
mais
le double.
Une distance mais à
la
oiseau.
Distance normalement, la distance normale, moi, je demeure dans le coin de Ville-Lorraine. Alors, de Ville-Lorraine au centre-ville, c'est pas plus compliqué. C'est ligne directe. Ouais. C'est épouvantable. Et le gros problème, c'est rendu Papineau. Il y a quelqu'un quelque part qui visiblement
qui
prend des décisions et qui se promène en bixi. C'est sûr. Je suis désolé, là. Il y a quelqu'un qui... C'est sûr.
Toi, Benoît?
Moi, j'ai le gros avantage de travailler à la maison. Et le plus j'essaie de rester là. Mais non, je suis pas très loin, je suis à Saint-Lambert.
Ce qui explique son teint pas très bronzé.
Oui,
aujourd'hui.
Effectivement.
Non, mais tu disais, Antoine, il y a des gens qui font pas leur job. Et puis effectivement, encore moi ce matin, là, le maire de Verdun doit tellement être tanné. Je salue Jean-François Parenteau qui essaie de faire ce qu'il peut, mais visiblement, il peut pas grand-chose. Mais nous, à Verdun, il descend. C'est le foutu bordel tous les matins. Pourquoi? Parce qu'il y a un bozo qui a décidé qu'il mettait un feu de circulation où il ne devrait pas y en avoir. Et le matin, dans pleine heure de pointe, on est tous arrêtés pour laisser passer qui? Un ou deux véhicules qui vient pas de l'Île-des-Sœurs, là, qui vient d'ailleurs pour aller prendre, qui vient à l'Île-des-Sœurs pour aller prendre Champlain. Mmh. Fait qu'on est tous là, on essaie de sortir.
Là, malheureusement, vous pouvez pas voir Isabelle mimer ce que les véhicules font, mais c'est effectivement assez complexe comme...
Mais c'est... Moi, toi, tu disais que tu étais à 24 km puis ça te prend 1h45. Moi, je suis supposée être à 7 minutes puis ça me prend 35 à 40 minutes tous les matins. Je veux dire... Il y a du monde qui font pas leur job. Et là, le maire de Verdun me dit, ben c'est un policier à la circulation que ça prend. Le feu manque de flexibilité et crée une congestion monstre. Effectivement, je la vis tous les matins. Puis là, tu te dis, ben OK, signature sur le Saint-Laurent, le SSL, qu'est-ce qu'ils font, là? C'est compliqué, ça? Branche pas le feu pendant l'heure de pointe du matin. Le monde veut sortir. Écoute, déjà qu'on n'a qu'une seule entrée.
Moi, je vais aller le dessert et quand je sors de là, je me trompe tout le temps. Je suis pas capable d'aller sur la. Je suis pas capable d'aller prendre la 15 Nord. Je me retrouve sur le pont Champlain.
Écoute, ça fait tellement du bien.
Hein?
Ça fait du bien de lâcher le méchant de même. Hein? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vivent dans leur voiture en ce moment même aussi une injustice énorme.
Comme disait Michel Barrette, asphaltons le fleuve. Ça va être plus simple. Hein?
Non, on touche pas au fleuve.
Okay,
on
correct.
Touche pas au fleuve.
Mais il y a déjà pas mal de bitume dedans. Mais ça...
Ouais, ça, puis des hormones, puis toutes sortes de cochonneries.
Ouais.
Bon. Parmi les trois points que les gens, parce que je vais quand même vous rappeler, on a parlé beaucoup de choses jusqu'à maintenant, notre question, c'est, on va se demander ensemble ce matin, qu'est-ce qui est important pour notre auditoire quand les gens qui nous écoutent changent de véhicule? Et souvent, on le dit mettons qu'on dit, il y a trois points principaux. Est-ce que le premier, ça reste... le paiement. Est-ce que c'est encore la mensualité, Benoît,
Charrette,
qui fait que les gens se magasinent?
Je pense que oui. Les gens se magasinent un paiement. Les gens ont un montant X par mois. L'idée, c'est de ne pas le dire d'entrée de jeu au vendeur qui est assis devant vous. C'est pas une bonne stratégie, mais les gens d'abord...
Moi, je veux pas payer plus que 500.
Ben oui, mais c'est ça.
Là,
c'est...
Oh, j'ai justement quelque chose pour
vous.
Pour
502 $, madame, ouais. Je peux vous financer une Mercedes de classe S sur 175 mois avec un dépôt de 28 500 $. Tu sais, on peut jouer avec les chiffres ouais. tant qu'on veut. Un paiement par mois, c'est pas nécessairement la bonne façon de magasiner, encore moins aux deux semaines, encore moins à la semaine. Et ce n'est une question de temps avant qu'on nous annonce ça à la journée.
Ah, ça, c'est vrai.
C'est rendu ridicule.
Pour le prix d'un café par jour, on va être là.
C'est ça.
Parce que là, on est aux semaines, puis il y a 10 ans.
Là, il faut faire le calcul. Parce que là, t'écoutes, tu dis, oh, l'autre jour, j'ai failli me faire prendre au jeu. Puis finalement, j'ai calculé, ah, en paiement bi-hebdo, là, tu fais comme, OK, ça, c'est aux deux semaines. OK, bon...
Là, il faut mettre les intérêts là-dedans.
Oui, là, finalement, non, à la fin du mois, tu sais
pas... Gens, c'est sûr que les gens regardent le budget, mais je pense aussi qu'ils magasinent, bon, d'abord des sièges chauffants, ensuite la caméra de recul qui, de toute façon, est rendue de série sur tous les véhicules.
Ah, les gadgets!
On regarde les gadgets.
Okay.
On veut Apple CarPlay, Android Auto. Ouais. Là, les sièges ventilés puis le volant chauffant, ça devient des gadgets qu'on aime de plus en plus. Puis souvent, là, les achats, ça va être ça, le facteur décisionnel. Puis je vais être le premier honnête, si demain matin, il faut que je m'achète un véhicule neuf et qu'il n'y a pas Apple CarPlay dedans, je me suis tellement familiarisé avec cette technologie-là qu'un véhicule qui ne m'offrira pas ça, probablement je ne l'achèterai pas.
Si c'est la caméra de recul.
Ben, tous les véhicules l'ont, là, maintenant.
Là, c'est obligatoire.
C'est
obligatoire.
Parce que les gens ne savent plus reculer. Depuis quelques années, les gens ne savent plus reculer. C'est ce que l'industrie a décidé. Donc, tu es obligé d'avoir une caméra de recul. C'est une loi. Tous les véhicules en ont. Ah. C'est pourquoi la Nissan Micra n'est plus vendue sous la barre des 10 000 $ parce qu'on a rajouté la caméra de recul de série.
Elle est combien?
Ben, 10 400.
Ouais, 10 498 ou 10 698.
Mais essayer d'en trouver une de base, ça, c'est une autre histoire. Ouais, parce que quand t'arrives chez le concessionnaire, c'est le modèle à 14 000.
Bon, alors, premièrement, on se magasine un paiement. Deuxièmement, on se magasine des gadgets, de l'équipement. Ouais. Quand est-ce qu'on pose les vraies questions?
Ben, je dirais, moi, que la fiabilité arrive après. Ouais, okay. La fiabilité est quand même assez haut sur la liste. Beaucoup de gens nous disent... Moi,
consommation.
Oui, consommation, fiabilité. Ouais. Les gens disent souvent, je vais acheter l'auto, puis je vais l'avoir 6, 7, 8 ans. Là. Donc, okay, mais... y a un facteur de fiabilité aussi.
Fiabilité et consommation, c'est pas la même chose. Là. Lequel non. avant l'autre, vous diriez? Toi, Benoît,
La consommation est de plus en plus, moi, j'oserais dire, parce que c'est vrai ce que Benoît dit, quand on reçoit des questions, les gens veulent avoir une voiture fiable. Dans leur langage, dans le langage des gens qui nous posent des questions, ça veut dire, je veux pas avoir de problème.
Je veux pas aller au
mais
garage.
Mais ça veut pas nécessairement dire... Je veux la garder longtemps.
Non.
Puis ce qu'on réalise, d'abord, le parc automobile au Québec est parmi les plus jeunes au Canada.
Oui.
Parce que les gens renouvellent leurs véhicules, parce que nos routes sont tellement démolies que les véhicules durent moins longtemps. Mais ça, c'est un fait, là.
C'est
un fait. Je veux dire, t'as pas besoin d'aller bien loin pour réaliser qu'une voiture qui a 7-8 ans ici, suspension, frein, direction, ça a mangé des volets. Alors que du côté de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique ou peu importe où, les routes sont pas aussi défaites. Et comme les gens louent majoritairement au Québec, à l'inverse des autres provinces, les gens ne font pas l'entretien. Ils font le minimum, puis ils redonnent les clés au bout de 3, 4, 5 ans. En passant, ne louez pas sur 5 ans. Très mauvaise idée.
Oui.
Mais les gens louent et redonnent les clés. Et le concessionnaire ou la personne qui reprend le véhicule a le choix de le mettre sur le lot puis de le vendre comme ça ou de l'envoyer à l'encan puis là, le véhicule sera vendu. Mais pensez-vous sincèrement que tout ce qui doit être remplacé sur le véhicule a été fait en bonne et due forme?
C'est ça.
Fait que quand vous achetez un retour de location qui a 92 000 km, là, soyez assurés que la suspension s'en retourne.
Posez beaucoup de questions.
Ben oui, pour moi, c'est vraiment pas les meilleurs achats, là.
On va s'arrêter ici. On est en compagnie de Benoît Charrette et d'Antoine Joubert, deux chroniqueurs automobiles qui connaissent bien l'industrie, qui vont pouvoir répondre à vos questions tout de suite après la pause. Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus important pour vous quand vous magasinez un véhicule, quand vous changez de véhicule? C'est probablement, sans doute, votre cas. On a parlé de plusieurs points. Paiement, gadget, équipement, fiabilité, consommation d'essence, voiture électrique, êtes-vous tenté? Il y a plusieurs choses qui peuvent vous tenter, justement. 514-790-9850 et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Notre sujet de cette première heure, qu'est-ce qui est important pour vous quand vous changez de véhicule? Beaucoup de gens veulent intervenir. On commence avec vous, Jacques. Est-ce que vous êtes en train de magasiner quelque chose en ce moment?
Oui, en ce moment, je suis en train de magasiner une chasse-traite de... pas Mitsubishi, de Subaru.
Ouais.
Puis, bon, mais, moi, l'important, il faut que ça soit endurant parce que je garde ça une quinzaine d'années.
Ah, puis, c'est bon. Okay.
Puis, le confort, ben je fais bon un voyage ou deux à l'extérieur de la province en auto.
Mm-hmm.
Puis, c'est pour savoir aussi si ce genre de mini VUSA va, si c'est confortable assez pour un vieux de mon âge, de 65 ans.
Ben, c'est surtout, tu sais, la notion de confort varie d'une personne à l'autre. Vous conduisiez quoi? Vous conduisez quoi en ce moment?
En ce moment, on a une vieille Honda Accord 2003.
OK. Vous n'aurez pas le même niveau de confort dans une Crosstrek, c'est pas vrai, parce que d'abord, c'est une voiture qui est un peu plus raide. Deuxièmement, l'empattement est plus court, mais vous allez énormément apprécier sa conduite en hiver. Et la bonne nouvelle, c'est ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous êtes tanné de votre Crosstrek après 2, 3, 4 ans,
ça se revend bien.
Ouais, 12 heures d'un claquement de doigts à très gros prix.
Pourquoi?
C'est probablement le petit véhicule. Les gens appellent ça un multisegment, là.
Ouais, mais
c'est une auto surélevée parce que essentiellement, c'est une Impreza. Impreza.
C'est une Impreza. Oh oui.
Mais c'est la valeur de revente, la demande pour ce véhicule-là et la qualité du produit aussi fait que sur le marché d'occasion, c'est un produit super prisé. Alors, allez-y haut la main. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de grosses négociations aux concessionnaires.
Non.
D'ailleurs, vous saviez que Subaru est probablement la marque d'automobile japonaise généraliste la plus payante. Parmi les concessionnaires.
Et qui a la clientèle la plus fidèle avec Volvo.
Et la plus fortunée.
Parce
que chez Subaru, il n'y a pas ben ben de deuxième chance au crédit, puis il y a bien des gens qui payent comptant, alors que chez BMW, il y en a de la deuxième chance au crédit, puis il y a des gens qui...
c'est de la location.
C'est ça. C'est vraiment, chez Subaru, c'est une clientèle qu'on veut avoir quand on est un concessionnaire automobile. Ce qu'on appelle une clientèle qualifiée très souvent. Et donc, les gens sont prêts à faire un entretien un peu plus sérieux sur leur véhicule, les conserver plus longtemps.
Il y a une belle ligne.
Oui, absolument.
C'est un très, très, très bon produit.
Bon, ben Jacques, je pense on vient de vous vendre ça, là. Hein?
Bien sûr. C'est un véhicule qui est résistant.
Absolument.
Oh oui, vous n'aurez pas de problème avec ça. Puis si jamais, puis je ne connais pas votre budget, mais si vous voulez retrouver un confort qui s'approche de l'accord, il y a le hardback aussi, qui est plus grand, ça c'est sûr, mais qui va vous donner l'espace et le confort que vous connaissez dans votre accord. Fait que c'est peut-être un plan B si vous trouvez que le Crosstrek est un peu petit.
Mais vous allez payer 7-8 000 $ de plus pour cette voiture-là à équipement équivalent. Pour le hardback, oui. Okay.
Ça vaut combien, ça, un Crosstrek?
Un Crosstrek, ça va varier entre 25 et 32. Là, quelque chose
trentaine de mille, vous avez quelque chose d'honnête. Là.
OK, ben merci, Jacques. Bonjour, Julie.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Julie. Bonjour.
Bonjour, Julie.
Ah, Julie est partie, je pense que... Benoît. On a Benoît avec nous. Bonjour, Benoît.
Pas un autre.
Bonjour à tous. Je voulais savoir pour un Chevrolet Cruze 2015 avec 76 000 km, admettons, fiabilité pour 4 ans encore.
J'ai des réserves.
Ouais,
j'ai des réserves parce que le petit moteur turbo là, là-dessus, ben là, les turbos, tranquillement, ça commence à faire défaut, on le voit.
Ouais.
Moi, je me garderais une petite gêne.
Donc, si vous m'aviez dit une première génération, je vous dirais de fuir en courant dans direction inverse. Mais le 2015 avait une meilleure réputation et une meilleure fiabilité. Le problème, c'est que les voitures GM, un peu comme Ford ou chez FCA, l'espérance de vie est un peu plus courte. Ces véhicules-là, généralement, après 4-5 ans, là, les problèmes commencent à sortir. Fait que vous êtes à la limite des bobos qui vont arriver.
Ouais, c'est ça.
Assurez-vous, si vous l'achetez, de faire une inspection minutieuse, si les choses qui avaient été à changer ont été faites. Si
moi, c'est surtout le turbo qui me fatigue.
C'est le turbo du moteur qui est un peu fragile après 4-5 ans. Là. Fait que je mets un drapeau jaune.
J'ai une garantie prolongée.
Ben, oui, sauf que là, si votre voiture, accompagnée d'une garantie prolongée, vous coûte plus cher qu'un Civic ou qu'un Corolla, rendu là, je vais vous dire, allez chercher un Corolla.
Ben oui,
c'est la logique est là. Ouais.
La Corolla, c'est une valeur sûre.
Merci, Benoît. Louis-Philippe, bonjour. Qu'est-ce que vous trouvez d'important quand vous changez de véhicule, vous, Louis-Philippe?
Ben moi, ça va définitivement être la fiabilité. J'ai présentement un Ford Escape 2014 SE EcoBoost.
D'où la raison pour laquelle l'insonorisation de votre véhicule n'est pas si bonne que ça. Parce qu'on vous entend rouler, les fenêtres sont pas baissées, rien.
Non, même pas. Puis je roule à peu près à 115. Donc, ça va avec un petit peu ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de grandes routes. Je dirais peut-être 35 000 km par année. Étant donné que j'ai un territoire de vente qui tourne, touche l'Ontario et le Québec. Mais c'est de la grande route, c'est pas beaucoup de la ville. Ouais. Et j'ai un Escape 2014. En mai 2019, ma transmission a lâché mort. Ça m'a coûté 6 000 $.
OK. Jusque-là, tout va bien.
Là, maintenant, tout va bien maintenant. En dehors de ça, moi, je veux plus jamais toucher à un Ford qui serait pas un véhicule, disons, comme leur spécialité, c'est-à-dire les trucks, pour ainsi dire.
Ouais.
Je regardais pour récent le SUV. Ma question, c'est, comme je suis quelqu'un qui veut faire, comme on dit en mon français, du heavy mileage, je regardais soit un 4Runner ou peut-être même le Santa Fe en tant que tel. Je regardais peut-être aussi le Honda Pilot. Mais je sais pas c'est quel qui est le meilleur, vraiment, une fois qu'on passe le fameux 5 ans.
Avez-vous besoin absolument d'un 7 passagers?
Pas nécessairement un 7 passagers, mais éventuellement au moins un 5. Donc, ça pourrait être aussi un RAV4, quelque chose comme ça.
Okay.
Bon, RAV4, vous avez allumé une lumière, là. RAV4 hybride, en ce moment, est probablement un des véhicules les plus intéressants dans la catégorie parce que la consommation est très basse, la fiabilité
valeur de revente
est très haute. Valeur de revente. Oh, oui. Le 4Runner, c'est increvable, mais vous allez payer cher en gaz, en tabac.
Ouais, puis pour l'autoroute, pour faire que de l'autoroute, non, vous allez trouver ça instable. Moi, j'irais pas là.
Mais le RAV4, il y a une bonne,
c'est
stable.
Le RAV4, c'est le VUS compact à acheter en ce moment. Le seul problème, c'est que dans sa version hybride, il y a une pénurie de stock. Il y en a pas.
6 mois d'attente.
Il y a six mois d'attente.
Parce qu'on n'a pas de batterie. On manque de batterie pour les fabriquer. Ça, c'est le problème. Puis moi, j'ai bien de la misère à justifier l'achat d'une version à essence par rapport à une hybride, considérant la faible différence de coût et toute l'économie d'essence qu'on réalise, en plus qu'on a un meilleur rendement et des meilleures performances avec le RAV4 hybride. L'affaire, c'est que dans votre cas, vous roulez principalement sur route. L'hybride devient peut-être un peu moins intéressant.
Exact.
Puis le RAV4, c'est pas nécessairement le mieux insonorisé du lot. Non. Alors, tu sais, peut-être que vous pourriez aller vers un Forester, un Outback, là, quelque chose comme
s'il
ça.
S'il va aller dans les 7 places, moi, j'y vais avec le pilote. C'est encore mon meilleur choix.
Encore. Okay. J'étais très surpris du Kia Telluride que j'ai roulé récemment.
C'est vrai.
Mais je pense pas que vous avez besoin de quelque chose d'aussi gros que ça.
C'est
là.
Gros, un Telluride.
Il y a de la place pour... On peut se reproduire
plusieurs
fois.
Des nouveaux modèles, là. C'est tous des nouveaux modèles dont on parle. Valeurs sûres, mais il y a des nouveaux modèles.
Le Palisade, le Telluride là, qui sont nouveaux, qui sont très
le
impressionnants.
Le Niro de Kia. Ouais. Je sais que Benoît Charrette a été attiré ton attention.
Absolument.
Le Niro, tu nous en parleras après la pause. On va s'arrêter ici, mais on revient tout de suite après avec, bien sûr, vos interventions, vos questions. Si vous voulez des conseils, on est en compagnie d'Antoine Joubert et de Benoît Charrette. Je vous demande, qu'est-ce qui est important pour vous quand vous changez de véhicule? Alors, ça peut être le paiement, pas trop cher. Hein? On veut jamais payer trop cher pour une voiture, mais on a quand même des attentes assez élevées souvent. À tout de suite, tout le monde. Bonjour Stéphane, qu'est-ce qui compte pour vous quand vous changez de véhicule automobile?
Madame Maréchal, mes hommages.
Pareillement, on vous écoute.
Bon, oui, écoutez, je m'adresse surtout aux deux spécialistes. Je suis en point final pour changer. J'ai besoin d'un pick-up, mais j'ai une conscience écologique. Alors, à date, mon choix s'arrêterait sur un F-150 avec le 3.5 biturbo. J'explique mon...
Ça, c'est supposé être écologique. Je veux pas me mêler de votre conversation avec les boys, là, mais...
parce que j'ai pas le choix d'avoir un pick-up, mais je voyage 80% à l'âge.
Okay.
Donc, je fais beaucoup de route.
Et pourquoi vous voulez le 3.5?
Ben, parce que là, je me dis, c'est deux cylindres de moins qu'un V8.
Oui, mais...
Dis,
OK.
Bon,
mais est-ce que vous remorquez avec votre camion, est-ce que vous travaillez avec, ou c'est vraiment parce que vous aimez un pick-up?
Je vais tirer 2 à 3 fois par mois, environ 5000 livres. Je livre du bois de chauffage. Alors, mais le restant du temps, je voyage, c'est comme je m'en sers comme véhicule automobile. Mais j'en ai besoin, je demeure dans un petit domaine à Chelsea, et puis ça me prend un pick-up. Alors là, je me dis, bon, on oublie le titan, on oublie le toundra.
Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est totalement d'accord. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous aimez le F-150 et que vous n'avez pas besoin de puissance et de charge tant que ça, allez dans le 2.7 EcoBoost, qui va consommer facilement 30 à 35 % moins d'essence.
Ah, ça, c'est majeur.
Puis c'est un moteur qui, jusqu'à maintenant, a montré une très bonne fiabilité, ce qui n'est pas nécessairement le cas du 3.5
EcoBoost. 3.5, les turbos ont des problèmes.
Peut-être pas les dernières générations, mais on en a eu dans le passé. Mais le 2.7, ouais. le 2.7 EcoBoost est un super bon moteur. Vous allez être capable de tirer 7 000-7 500 livres avec ça sans problème.
Tu sais, au pire, là, Stéphane, tu fais deux voyages de voie, là.
Mais vous allez consommer 9-10 litres au 100 à l'aige, alors qu'avec le 3.5, c'est du 13-13.5 facile, ouais. Là.
Merci beaucoup. On espère qu'on vous a aidé. Yves, bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. Félicitations pour votre émission.
Merci.
Et moi, c'est 100 000 à l'heure, c'est la fiabilité. Ouais. J'ai un 2004 Montana et un 2006 Toyota. Mm-hmm. Et puis, je viens de faire l'acquisition d'une roulotte de 1500 livres. Et je voudrais vraiment acheter le RAV4 Trail 2020.
Oui.
Je pensais que je fais un bon achat.
Oui, c'est un super bon choix, ouais. Parce que...
Ça, c'est hybride, ça?
Non, c'est pas l'hybride, mais lui a l'avantage de pouvoir remorquer 3500 livres.
Exact. D'où l'idée du trail, là. C'est un... Puis pour 1500 livres, vous allez être bon en masse, là. Puis la fiabilité est éprouvée sur ce modèle-là, là, ça posera pas problème.
Le seul petit défaut que j'y trouve, là, à ce produit-là, c'est qu'il est un peu bruyant, ouais. En accélération. À part ça, c'est le meilleur achat qu'on peut faire actuellement dans le segment des VUS compacts, point final.
Le RAV4 Trail.
Le RAV4.
Le RAV4, ouais. Parce qu'il y a trois versions du RAV4.
Il y a le trail,
dont
le trail. Hybride.
Puis le régulier. Là,
tu as le modèle à essence avec le moteur 2.5. Ouais. Tu as la version hybride. Mais le Trail, c'est un modèle un petit peu plus off-road, qui est un peu plus renforcé au niveau du châssis.
Mais qui est à essence. Ouais. C'est pas un hybride.
Voilà. Non, non. Ça. Mais c'est un super bon produit.
La, la consommation, ça vous préoccupe, Yves?
Non, pas. Ben plus ou moins, là, disons.
Mais les prix de l'essence non plus, parce que vous avez vu, là, ça a augmenté pas mal, ça vous...
Oui, mais faut pas paniquer là-dessus. Il y a une petite hausse, là, mais ça
mais
va...
Mais la consommation est très correcte dans le RAV4.
Ben oui, exactement.
Oh, oui, vous n'aurez pas de problème. Là, bon. C'est tout à fait honnête.
Moi, c'est au niveau de la transmission, fait que je n'ai pas à m'inquiéter là-dessus pour le
non jour. Plus. Pas du tout. Non plus. Alors, ça, non, c'est un très bon choix. Bon. Allez voir ça.
On en vend des autos au matin. Merci, Yves. Serge, bonjour.
Hey, si on faisait 5 piastres à chaque fois, son compte.
Ah, vous seriez riche. Hein? Vous seriez riche. Bonjour Serge. C'est quoi que
bonjour,
vous regardez quand vous regardez pour magasiner un véhicule? Qu'est-ce qui compte pour vous?
Ben là, voyez-vous, j'avais un Rogue dernièrement avant les inondations à Sainte-Marthe.
Ouais.
Mais là, je regardais peut-être pour un véhicule un peu plus petit. J'ai vu un véhicule Chrysler 200. Le prix est alléchant.
Oui, il y a une raison pour ça.
Mais vous parlez de quelle année? Quelle année?
2015.
OK.
Limited.
Donc, avec le 6 cylindres?
Oui.
Oui. Ben ça, c'est un très bon produit, puis personne ne le connaît.
Ben
c'est
oui.
Un produit mort-né.
Parle-en donc un peu. Ah!
Oui, c'est ça.
Autrement dit, Chrysler a lancé ce produit-là. Si vous m'aviez parlé du 4 cylindres, je vous aurais dit, ben ça. Là, vous faites exprès. Mais avec le V6 Pentastar, ça, c'est un produit que Chrysler a lancé, sachant au jour 1 qu'on allait l'abandonner... 2 ans après, parce que il y a eu une question de syndicats, de besoins d'usines, de mauvaises stratégies qui ont été prises du côté d'FCA. Mais c'est une berline intermédiaire qui est assez moderne dans sa présentation.
Confortable aussi.
Très confortable. Ouais. Il y a un super bon moteur là-dedans. Je vous dis pas que vous allez avoir la fiabilité d'une Camry pendant 15 ans, là, mais sa valeur est tellement faible par rapport à certaines rivales que moi, je conseille ce produit-là souvent à bien du monde.
Comment tu l'appelles encore?
Le Chrysler 200.
Chrysler 200.
La Chrysler 200.
On parle d'un 2015-2016. Là. Oubliez
oui,
ça
là,
avant ça.
Ouais.
Mais
on n'en vend plus. Là. C'est
ça que tu non, on n'en vend plus. On en a vendu 2 ans.
Ouais, fait que ça vaut combien, mettons?
V6, ben, tout dépend. Vous avez combien de kilométrage?
114. Là, qu'est-ce que je viens de voir? Là, c'est 114 000 kilos.
Bon, puis il demande quoi, une douzaine de mille?
Ah, oh, moins que ça.
Ouais. C'est pour ça que je trouve le prix alléchant.
Il est à quoi, 8, 9?
8, à peu près 8.
Seigneur, quand même.
Oh, oui, non, c'est ça. C'est.
Un Camry, pas un cher, Camry ça. Équivalent coûte facilement le double.
Quelle année vous avez dit?
2015.
Ça, 2015.
Parce que ça s'est fait en 15-16. Puis c'est les années, comme disait Antoine, avant ça, touchez-y pas, là. Mais avec le V6...
C'est une voiture qui a 4 ans, 8 000
c'est pas une traction intégrale?
Pardon?
C'est pas une traction intégrale.
C'est un Limited, qu'on m'a dit.
Parce qu'ils l'ont fait avec le rouage intégral, ce véhicule-là.
Ouais.
Ce qui fait que à ce moment-là, ça consomme un peu plus puis ça coûte un peu plus cher. Donc, c'est probablement pas une traction intégrale. Mais oui, allez-y. Puis faites votre entretien régulier. Ne mettez pas des pièces d'origine lorsque viendra le temps de changer vos freins. Ça, c'est important.
Ouais,
parce que ça vaut, c'est, les freins là-dessus, c'est une faiblesse. Mais sinon, au prix qu'on en demande. Parce que, comme je vous dis, une Camry V6, là, c'est le double du prix.
Merci. On a Isabelle avec nous. Bonjour.
Bonjour, je me magasine un prix.
Ah, c'est ça.
C'est bon.
Alors, beau bon pas cher entre la Nissan Kick et la Kia Soul.
Ah, Seigneur, Kia Soul, tout de suite.
Ah oui, moi aussi.
Sans hésiter.
Oh, oui, absolument.
Ah, Nissan,
chez Nissan, un produit qui est pas mal plus convaincant, moi je vous dirais, c'est le Qashqai.
Ouais.
Pour pas bien plus cher.
Ouais, il est nice en plus, il est cute.
Ben, c'est parce que le Kick est pas inintéressant, mais c'est un deux roues motrices, c'est fini ordinaire. On a beaucoup misé sur le prix, puis il en manque un peu dedans.
C'est combien?
Ça 19 à 24 000.
C'est ça, 18,
19 à 24 000. Puis la Soul, ça va être autour de ça, mais la qualité de fabrication est de loin supérieure.
Absolument.
Et considérez aussi que vous avez une garantie qui est 2 ans plus longue.
Ouais.
Ça, c'est
pas le Qashqai est intéressant, vraiment.
Le Qashqai dans le 4 roues motrices, c'est le même format que le Kicks, ou à peu près, là, il y a des différences subtiles.
Mais plus cher d'essence.
Oui, un peu, mais pas de façon effrayante. Là. Vous allez avoir probablement 1,5 litre au 100 là, de plus. Là. Donc, c'est pas sur une année, c'est peut-être 250-300 $, là, c'est pas la fin du monde.
Ben, en tout cas, j'ai pas vu d'hésitation. Hein. On va y aller sur la Kia.
Puisqu'on est dans Kia, merci Benoît. Tu voulais parler du Niro de Kia.
Ouais.
C'est
Kia un Niro. Modèle? En fait, la Niro ou le Niro, ça a été le premier véhicule.
C'est un peu exagéré.
Oui, en tout cas, la Niro. Ça a été le premier véhicule offert en 3 versions vertes. C'est-à-dire qu'on a mis sur le marché au départ un hybride conventionnel, là, comme un Prius, par exemple. On a un hybride branchable, puis là, on a un 100% électrique. C'est la même base électrique que le Hyundai Kona. On annonce un petit peu moins de kilométrage en autonomie, 385 versus 415 pour le Kona. Puis c'est une question essentiellement de poids. Le Kona est un peu plus léger. Il y a 1685 kilos pour le Kona.
La vérité, c'est que vous êtes capable de faire la même affaire avec les
deux. En fait, c'est ce que j'allais
dire. Mais est-ce qu'il y en a un qui tient mieux la route? Est-ce que le Niro, est plus lourd?
Le Niro est plus grand et plus vaste.
Plus spacieux.
Pour l'espace des passagers, pour l'espace cargo. J'aime mieux l'aménagement puis la position. Puis il a l'air un peu plus d'un véhicule ordinaire. Le Kona, est, avec son devant qui a l'air un petit peu space, il y a des gens qui vont dire, peut-être moins beau. Mais j'ai beaucoup aimé le confort du Niro. Les sièges, on est bien assis.
Oui, c'est vrai.
Moi, dans ce que j'ai essayé d'électrique cette année, c'est pas mal parmi mes préférés.
J'ai juste un problème là-dessus, moi, c'est qu'il n'y en a pas.
Non, mais c'est
que tu arrives chez le concessionnaire puis il n'y en a pas. Puis moi, c'est une stratégie que j'aime pas des Coréens. C'est que on arrive avec 3 véhicules électriques cette année, le Kona électrique, la Niro et la Soul électrique, qui partagent tous les mêmes technologies. Mais quand tu arrives là-bas, c'est 6, 8, 10 mois d'attente, voire même un an. Alors que quand tu vas chez Chevrolet pour t'acheter une Bolt, il y en a une dans le cours aujourd'hui.
Ouais.
Fait que, elle a la différence. C'est beau d'offrir un produit puis de le mettre sur le marché, mais s'il n'y a pas de disponibilité, tu déchantes un peu.
Ben, c'est parce que les gens qui magasinent un auto, c'est pas pour l'année prochaine, là. Ils magasinent un auto.
Puis c'est très émotif aussi comme achat, hein? Surtout chez nous. Là.
Oui,
qu'on est plus émotif dans le choix des véhicules? Vous diriez
on est sanguin.
Ouais, c'est ça.
On est sanguin. Il y a quelque chose de je sais pas, il y a quelque chose de latin.
Ça explique
dans ça, je pense.
Ce problème-là explique aussi le phénomène Tesla. Parce que la Tesla Model 3.
Je voulais y venir après la pause de la Tesla, si tu permets, Antoine.
Ouais.
Tiens ça, on va parler de la Tesla, justement, Model 3 après la pause, parce que vous aviez des petites choses à dire sur Tesla, entre autres. Et puis, on va prendre quelques autres appels avant de terminer sur notre premier sujet. À tout de suite, tout le monde. On a Martin avec nous. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour. Écoutez, moi, j'ai fait l'achat justement d'une Kona, OK, que je vais avoir qui tombe.
Kona électrique ou Kona essence?
Kona électrique.
Okay.
Oui. Puis à ce moment-là, je devrais l'avoir comme au mois de mars. Ma location se termine à peu près à ces environs-là. Fait que ça tombait bien.
Okay.
Je ne sais pas si je me donne une fausse illusion, mais moi, présentement, je veux stopper comme vraiment les paiements. J'ai réussi à ramasser le montant pour le payer comptant. Puis, je me dis la valeur de revente, si on regarde les livres et ces affaires-là, ça garde une certaine valeur aussi également. Mais en achetant un Kona comme ça électrique, en payant comptant, j'arrête de payer de l'essence. Est-ce que c'est une fausse illusion que je me donne en me disant que ça pourrait être un bon achat qui fasse en sorte de stopper l'hémorragie des paiements tout le temps, de payer de l'essence à 5 000 $ par année?
Ah non, ben, c'est sûr, Antoine.
Moi, je veux dire, le Kona électrique, si c'est uniquement pour une question financière, ça ne vaut pas la peine. C'est le double du prix d'un Kona à essence. Ouais. Un Kona à essence coûte 25 000 $ équipé sur le.
Et c'est 55 000
sur un Kona électrique, c'est 51 000 $ Alors là, il y a moins le 13 000 de rabais gouvernemental, vous allez dire, mais il reste quand même. Donc, c'est 51 000 plus taxes moins 13 000.
Mm-hmm.
Il revient quand même à 44, 45 000 le véhicule.
Plus que ça, alors, t'es à 49 presque.
Fait que c'est un véhicule très coûteux pour ce que c'est. Vous avez besoin de faire du millage en tabarouette avant de rentabiliser toute l'essence que vous allez économiser.
Mais êtes-vous en train de dire,
économiser?
Messieurs Benoît et Antoine, que ça serait peut-être mieux à ce moment-là un Niro hybride?
Ben, pas nécessairement, mais c'est parce que quand on
par
achète un véhicule...
Kona, vous semblez quand on aimer achète, le Niro, là?
Quand on, ben, le Kona et le Niro, c'est le même véhicule en ce qui me concerne. C'est vraiment une question
proches,
d'aménagement.
Oh, oui.
Mais l'affaire, c'est que on n'achète pas un véhicule électrique comme celui-là uniquement pour une question financière. Si vous voulez acheter un véhicule électrique qui a une autonomie comme celle-là pour une question financière, le seul qui est un peu viable actuellement, c'est soit le Leaf avec la plus petite autonomie ou la Bolt sur laquelle on a des rabais, des incitatifs. Mais à 52 000 $ avant de rentabiliser ça, ça va être très, très long.
Tu l'achètes pourquoi ça? Tu l'achètes dans une conscience écologique en plus du prix, c'est ça?
Ben, tu l'achètes aussi pour le plaisir au volant parce que c'est ce que
c'est plus
le genre
fun à conduire qu'une Leaf ou
c'est
qu'une...
Sûr, pas nécessairement.
Non. Non, mais tu sais, faut compter que quelqu'un qui fait pas mal de kilométrage dans l'année va probablement sauver à peu près 5 000 $ d'essence. Considérant que tu passes de 25 à 50 000, ça va te prendre au moins 5 ans avant d'absorber ce que tu as payé en surplus pour ton essence.
Puis c'est beaucoup d'essence, 5 000 par année. C'est beaucoup
de kilométrage. C'est quelqu'un qui roule, là.
Puis moi, je veux aussi ajouter qu'un véhicule électrique, ça a bien des avantages, mais pensez pas qu'il n'y a pas d'entretien là-dessus. Là.
Non, c'est
parce
ça.
Que ce qui brise sur un véhicule aujourd'hui, c'est plus le moteur à essence. Ce qui brise, c'est la suspension, les freins, la direction, les systèmes de refroidissement, tout ça. Et ça, tu as ça sur un véhicule électrique.
Ouais.
Faut que tu fasses l'entretien de ça également.
Est-ce que les pièces faut aussi considérer... coûtent plus cher que dans une voiture, traditionnelle?
Non, c'est assez compliqué.
Il faut aussi considérer, parce que les gens pensent qu'on ne met plus d'essence, ça ne veut pas dire qu'on ne met plus d'énergie. L'électricité ne coûte pas grand-chose, mais coûte quelque chose.
C'est ça.
Puis, je suis désolé, mais si vous rebranchez...
Et si tu vas, si tu fais du kilométrage que tu sors du Québec, là, tu vas
voir... Non, mais moi, j'ai fait le calcul l'autre fois. J'ai pris un Outlander PHEV. Je suis parti de chez moi, je me suis rendu au centre-ville. J'ai fait une trentaine de kilomètres, même pas. Je me suis branché au centre-ville pendant 3 heures.
C'est sûr que t'avais plus de
jus. J'avais plus de jus, mais je me suis branché au centre-ville, puis je suis retourné à la maison. Combien ça m'aurait coûté d'essence pour faire 30 kilomètres? 4-5 piastres?
Oui, j'allais dire
3 piastres. Ça m'a coûté 5 $ pour recharger le véhicule au centre-ville.
Mais c'est un geste pour la planète.
Sur le circuit électrique.
Antoine, sois fier.
Mais oui, mais je suis.
Sois fier.
C'est
un geste pour l'environnement.
Exactement.
Tu sauves la terre, notre terre mère.
De flatter mon égo.
Oui,
tu la
sauves. Si tout le monde la sauvait comme toi, tu vois comment
qu'il est.
Ça
sent mieux.
C'est ça.
Amenez-moi un thé vert, quelqu'un.
C'est ça. Parce que vous prenez beaucoup l'avion, messieurs. Mais on
n'ira pas là. Non, on ne fait jamais ça, nous.
C'est ça. Je veux juste vous envoyer sur le... On voulait parler de Tesla quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que Tesla... Antoine me disait pendant la pause, il y a bien des gens pour qui Tesla, c'est une religion. Là,
non, c'est plus que ça, c'est une secte.
Une secte, c'est ça.
C'est une secte. Mais la Tesla, je l'ai mis première dans le guide de l'auto cette année parce que c'est vraiment une machine qui réinvente la voiture électrique dans son ensemble. Il y a tellement de belles choses sur la Model 3. Par contre... j'ai bien de la misère avec le service après-vente. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit sur ma page Facebook pour me dire qu'ils avaient acheté une Tesla qui a eu des problèmes de rouille sérieux. Le concessionnaire, entre parenthèses, ne fait rien.
Non.
On peut pas faire de vente d'accommodation chez Tesla. Il y a bien des irritants. C'est très arrogant. C'est un
Tesla
peu comme
Apple.
Tesla vend
des autos, il se limite à ça. Il n'y a pas de service à la clientèle. Il n'y a pas de service après-vente. On se fout un peu du client. Puis ça n'a pas sa place.
Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Revenez bientôt. Antoine Joubert, Benoît Charrette, on va aller voir vos guides de l'auto et votre annuel de l'auto. Merci beaucoup à tous
Merci.
Les deux. Tout de suite après, la Doc Laberge est avec nous.